Alors, pour commencer, je vais vous montrer quelques photos. Et sans réfléchir, vous pensez que vous entendez. Et en quelques secondes, vous choisissez l'image. Sans réfléchir, tout le monde parle. Hein, d'accord? Donc voilà, vous pouvez vous déplacer. Je vais regarder les photos. Vous en choisissez bien un numéro. Sans réfléchir plus loin, juste vous pensez à battant et vous choisissez une photo.
Je me dis qu'elle doit être dans un pays qui ça doit être très difficile et qu'il va falloir tout mettre de là.
D'accord. Qui est donc la chevalerie? Jacqueline? Ah, moi, je vous ai dit. Alors moi je vais intervenir un petit peu, après je passerai la parole à Delisa, et puis après ce sera donc Alison qui va parler. Alors moi j'aimerais qu'on commence, Meryl, si tu veux aller à l'antenne, d'abord par une définition du mot battante. On va voir un petit peu justement ce que le monde pense d'une femme battante, et après on aura quelques témoignages plutôt, bien sûr, dans la Bible. Donc, battante, donc personne combative, dynamique, énergique, active, qui a beaucoup de volonté, qui se bat dans la vie. Voilà, ça c'est une définition qu'on trouve du mot battante. Alors, le monde, il y a aussi des tests aussi qui ont été faits. Par exemple, avant de passer à ça, je vais vous dire, on parle de la personnalité du battant. Donc la dominante chez le battant, c'est qu'il apprécie les champions, donc il doit éviter l'échec à tout prix. Le comportement, il est sûr de lui, il est rapide, pas toujours beaucoup d'émotions chez le battant. Les qualités principales, efficacité, il sait motiver les autres, il a à cœur de voir des objectifs atteints, c'est un bon vendeur par exemple. une bonne personne relationnelle aussi. Alors là, il y a quelques questions, je vais vous demander de réfléchir. Ça, c'est toujours suivant le monde, hein, parce que mon but sera de vous entraîner ailleurs que ça. Mais suivant le monde, alors, si vous répondez oui à une majorité des questions que je vais poser, donc dans votre tête, c'est que vous êtes battante. Première question, la réussite a-t-elle une grande importance pour vous ? Vous sentez-vous mal si vous n'avez pas de projet ? Vous adaptez-vous facilement à une nouvelle situation ? L'échec est-il inconcevable pour vous ? Avez-vous de la difficulté à ressentir des émotions ? Peut-on dire de vous que vous êtes quelqu'un de rapide ? Peut-on dire de vous que vous êtes un travailleur infatigable ? Toujours d'après les thèses de personnalité, d'après le monde, si vous répondez oui à la majorité des questions, vous êtes quelqu'un de battant. Alors ensuite, donc, j'ai essayé de chercher un petit peu. Donc il y a eu des livres qui sont sortis avec le mot battant. Sinon, j'ai trouvé aussi qu'il y a eu donc un téléfilm qui s'appelait La Battante en 2004. Et donc c'est l'histoire, vous voyez, d'une femme qui se bat pour retrouver sa filiation en fait, de retrouver sa maman. Donc voilà, le titre était La Battante. Et il y a une chanteuse aussi, bon moi personnellement je la connais pas, Miss Dominique, mais bon, d'après certaines personnes elle est connue. Et elle a enregistré donc un CD et ça s'appelait Une femme battante. Et donc des livres, mais il y en avait plusieurs livres, donc je vous les ai pas notés. Donc voilà, donc c'est un mot quand même qui apparaît dans le domaine artistique, ce mot battant. Voilà. Alors, pour le monde, la mentalité donc, du battant s'axe sur trois piliers. Elle résiste aux influences négatives. Elle n'a pas peur d'être authentique, d'être elle-même. Dans le sens, je pense que... Ben, si ça ne va pas, elle le dit, quoi. Si on l'agace, elle le dit. C'est dans ce sens-là, d'être vrai, quoi. Et elle ne cesse d'apprendre et n'abandonne jamais. Voilà. Donc tout ça, c'est toujours d'après le monde. Excusez-moi, j'allais chercher ma Bible. Voilà.
Alors, moi, je ne veux pas me satisfaire de ça.
Alors, j'aimerais juste partager avec vous quatre exemples. J'aurais pu en trouver d'autres, mais il fallait que je me limite. Alors, le mot battant n'existe pas dans la Bible, mais nous avons beaucoup de récits de vie et de situations difficiles où les femmes ont fait preuve de persévérance. Au travers des quatre femmes qu'on va parler ce soir, nous allons dresser d'autres piliers, pour moi en tout cas, de la mentalité de la femme battante. Alors, on va regarder Déborah, Abigaël ou Abigail, ça dépend, vous pouvez le prononcer de deux façons, Lydie et Priscille. Alors tout d'abord, on va penser à Déborah. Donc je pense qu'on n'aura peut-être pas le temps de lire tous les textes, donc je vais vous faire un petit peu les résumés. Alors pour Déborah, on est au temps des juges. Donc c'est après Josué. Et c'est une période un peu particulière où le peuple s'éloigne de Dieu. Donc Dieu envoie des envahisseurs. Le peuple se repent. Il envoie un juge pour les délivrer. Et ça recommence. Le peuple désobéit. On est dans une espèce de cercle comme ça. Donc il y aura 12 hommes et une femme qui vont être juges. Donc aujourd'hui, celle qui nous intéresse, c'est donc Déborah. Donc je vais peut-être quand même juste lire les quelques versets pour bien vous situer l'histoire. Donc dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abonioman, de Kedesh Nephtali, et elle lui dit « N'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël ? Va, dirige-toi sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes et des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kizon, Sisera, le chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. » Barak lui dit, « Si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. » Elle répondit, « J'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. » Déborah se leva et se rendit avec Barak à Kedesh. Donc là, ce qui m'a frappée pour Déborah, d'abord,
elle est qualifiée parce qu'elle juge, donc c'est un juge, elle est qualifiée dans les affaires civiles, elle peut prononcer des jugements. Ensuite, elle est prophétesse, c'est-à-dire que Dieu l'a appelée à transmettre aux autres ce que Dieu veut. Donc elle sait ce que Dieu veut, c'est-à-dire qu'il faut aller combattre cet envahisseur Jabin des Cananéens. Aucun homme ne veut y aller, donc elle, elle est là, mais c'est ce que Dieu veut, il faut y aller. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui obéit à la volonté de Dieu, qui est courageuse et qui est humble, parce qu'elle dit quand même à Barak, tu te rends compte, si c'est moi qui vais, quand même, c'est moi qui vais avoir la gloire et c'est toi normalement qui devrais y aller. Donc voilà, moi je trouve que c'est une femme battante, elle obéit avec confiance, c'est quand même une mission de combat hein, quand même. Elle est humble, elle connaît sa place, elle sait que normalement ça devrait être cet homme qui devrait y aller. Donc voilà, ça c'est l'exemple un petit peu de Déborah. Et aussi cette histoire nous fait penser, il y a un verset dans Ésaïe qui dit « Les enfants d'Israël deviendront tellement enfantins que je devrais leur envoyer une femme, une mère. » Et il semblerait que Déborah, elle a dû intervenir parce que les hommes, ils ne se faisaient pas face, quoi. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu Déborah, mais vous pourrez relire tout ça dans la Bible, vous connaissez, et on peut apprendre aussi beaucoup de choses sur Déborah. La deuxième personne, c'est Abigaël, moi je l'appellerai Abigaël. Alors là, je ne vais pas vous lire, c'est assez long, mais je vais vous dresser un petit peu le contexte. Donc David est en fuite, Saül le poursuit. Donc David est en fuite. Il a des hommes avec lui et ils ont faim. Et il apprend que Nabal, qui est un riche propriétaire, qui a des brebis, et David a eu l'occasion d'aider les bergers de Nabal une fois, de les protéger. Et là, David apprend que le troupeau de Nabal sont en train de se faire tondre. Donc il dit, ils sont en train de tondre les brebis, il y aura de la nourriture, etc. Donc David dit, déploie des hommes pour demander à Nabal s'il pourrait lui donner à manger. Et Nabal, bien sûr, qui est décrit comme un homme méchant, rusé, ivrogne, etc., refuse. Donc les messagers reviennent, ils disent, écoute, Nabal, il ne veut pas nous donner à manger, il ne reconnaît pas que tu as été bon envers ses bergers, etc. Et David, c'est un homme de guerre, il dit, c'est pas grave, on prend les armes et on va l'attaquer. Et là, sa femme, la femme de Nabal, Abigaël, elle entend parler de ça. Et elle dit non, c'est pas possible. Donc elle s'en va au devant de David et lui dit ne fais pas ça, David. Entre-temps, elle a prévu, elle a pris des provisions, elle est allée auprès de David, elle s'est agenouillée, elle a dit David, ne pars pas en guerre contre Nabal, c'est un homme dur, toi tu vas être le futur roi d'Israël, tu ne dois pas faire la guerre. Et elle lui donne de la nourriture, etc. Et évidemment, David. Il trouve ça vraiment formidable, quoi. Il lui dit merci, tu m'as empêché de faire une guerre inutile, etc. Et puis, Abigaël rentre, son mari est ivre, elle ne lui dit rien. Quand son mari est un peu cuvier, elle lui raconte et il tombe. Il dit mais c'est pas vrai, t'as fait ça, quoi. Et il tombe, on dit son cœur devient dur et il meurt une semaine après. Quand David entend ça, il va chercher Abigaël qui va devenir sa femme. Voilà. Donc, Abigaël, donc là, moi, j'ai trouvé quelques pistes aussi pour moi. C'est une femme battante car elle fait preuve de sagesse. Donc, elle va auprès de David, mais elle a pensé qu'il est venu parce qu'il a faim. Donc, elle fait des provisions, elle va auprès de lui. Je pense aussi que c'est une femme de paix parce qu'elle a cherché vraiment la paix à tout prix. Et elle sait aussi que David est le futur roi. Je pense qu'elle est spirituelle, elle sait qu'il a été choisi, elle ne veut pas qu'il soit encore dans une guerre. Alors c'est aussi une femme qui, à mon avis, supporte une situation difficile, parce que vraiment la description de son mari, c'est terrible. Hein. C'est vraiment quelqu'un, on parle, qui est fou, qui est dur, certes riche, mais qui boit apparemment. Donc, et voilà, elle reconnaît aussi que David est un homme de Dieu, donc je pense que c'est quelqu'un qui a une connaissance biblique aussi. Voilà, ça c'est le deuxième exemple, donc on aurait pu en trouver beaucoup, hein, mais j'étais un petit peu obligée de limiter. Alors la troisième, c'est Lydie, donc personnage où on a très peu de versets, mais qui sont très denses. Alors Lydie, c'est donc dans les Actes, et On retrouve Lydie au bord de la rivière à une réunion de prière. Et Paul arrive et le Seigneur avait vraiment préparé son cœur. Elle ouvre son cœur, elle comprend l'évangile. Alors cette femme, on sait que c'est une marchande, hein, c'est quelqu'un qui vend des étoffes de pourpre, qui est d'origine païenne. Donc c'est certainement, oui, c'est la première chrétienne de Macédoine et d'Europe. Donc c'est une femme d'affaires, elle a une famille. On apprend plus tard qu'elle a une famille. Alors moi, elle, je pense que c'est une femme battante parce que ça va apparaître. Donc, vas-y. Elle aime prier. Elle a cherché donc un lieu de prière, même si elle n'avait pas tous ses vies. Elle a vraiment cherché une rencontre de prière. Apparemment, il semblerait qu'il n'y avait que des femmes à cette rencontre de prière. Donc elle exerce l'hospitalité à plusieurs reprises pour Paul. Donc c'est quelqu'un qui a à cœur l'hospitalité. Pour moi, c'est des caractéristiques de Lydie, et tout en étant donc femme d'affaires et en ayant sa famille. Et puis donc une quatrième avec laquelle j'aimerais qu'on parle, c'est Priscille. Priscille intervient un petit peu plus tard dans le livre des Actes. Donc on est au début de l'Église, de l'évangélisation, donc ça y va, ça évangélise bien. Plusieurs équipes se forment et on entend parler de Priscille avec son mari Aquila. Et pour moi, donc, c'est une femme battante, Priscille, déjà parce qu'elle a le souci des âmes perdues, elle est vraiment dans l'évangélisation. Elle a le souci de la vérité, de la connaissance biblique, parce que dans le passage que j'ai choisi, il rencontre cet homme Apollos qui parle de sa foi et cet homme n'a pas tout compris. Et Priscille et Aquila disent, mais il faut qu'on l'invite à la maison, il faut qu'on lui explique, il n'a pas tout saisi. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a le souci de la vérité, qui connaît la parole. Hein. Et dans le cas de Priscille, eh bien, c'est une femme qui soutient son mari donc, dans ce ministère qu'ils ont. Ils sont toujours associés tous les deux. Des fois on dit Priscille et Aquila, des fois on dit Aquila et Priscille. Voilà, donc pour résumer un petit peu tout ça, donc on a vu un petit peu d'après le monde, ce que le monde dit, ce que c'est une femme battante. Donc moi j'aimerais vous proposer peut-être d'autres choses, d'autres définitions d'une femme battante. Donc quelqu'un qui obéit à la volonté de Dieu, quelqu'un qui a le courage de faire la volonté de Dieu, qui est humble, qui connaît sa place, qui a de la sagesse dans les circonstances difficiles, qui vit des situations difficiles, qui recherche la paix, être une femme de paix, une femme de prière, être hospitalière, avoir un cœur d'évangéliste, soutenir son mari si c'est ce que Dieu nous demande, quoi, et avoir le souci de la vérité. Voilà, c'est d'autres, et la connaissance biblique. Voilà, pour moi, c'était quelques autres repères que ce que le monde nous propose. Voilà, c'était ces repères-là. Et je me suis dit, avec toutes ces qualités qu'on a développées un petit peu, comment moi je vois un peu la femme battante d'après quelques exemples bibliques, je me suis demandé, est-ce qu'on rechoisirait la même photo ? Après ça. Posez-vous la question, si après avoir vu ça, est-ce que vous choisiriez la même photo ?
Moi, je me suis fait le test en moi, hein. Et effectivement, je me suis dit qu'après tout ça, j'aurais choisi quelqu'un qui prend le temps de contempler, de méditer, ou peut-être de réfléchir. Après avoir fait ça, je me suis dit peut-être que j'aurais choisi une autre photo.
Et puis maintenant, je vais passer la place à Delita qui, elle, va vous faire part d'un sondage qu'on avait donné à quelques personnes qui nous ont expliqué un petit peu comment elles ont pu rester battantes et fortes avec le Seigneur. Alors, à toi, Delita.
Ben, Ben moi, je vais vous donner ce que j'ai récupéré vers Erika et Philomène et moi-même. Alors, que veut dire être battante pour toi aux yeux de Dieu? Non, c'est comment as-tu réagi aux épreuves rencontrées pour être battante? Erika, l'eau ne me submergera pas, Dieu me retient par la main droite. Erika veut dire qu'elle a tellement confiance en Dieu qu'elle ne elle va pas couler. Il y aura toujours Dieu qui sera là pour la soutenir. Donc j'ai trouvé que c'était très bien. Alors, et Jésus connaît mes souffrances car il a souffert plus que moi. Donc Jésus n'est pas le même, n'a pas le même temps que nous. Je dois être patiente car son temps n'est pas mon temps. Je reste accrochée comme une moule à un rocher. Donc ça veut dire que Erika, elle a vraiment la foi, qu'elle voilà, qu'elle s'est battue et que voilà, elle a vraiment confiance en Dieu et voilà. Et après, je suis passée à Philomène. Il faut quand on n'arrive pas à oublier complètement son passé, il faut rechercher la volonté de Dieu dans toutes les situations. Faire des réunions avec des frères et des sœurs, faire des camps pour pouvoir parler, se faire aider, d'où l'importance de la prière avec des chrétiens, des pasteurs, prier les uns pour les autres, se débarrasser de tout ce qui est entre Dieu et moi, pour Philo, brûler les lettres. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et redresse tous ceux qui sont courbés. Psaume 145, verset 14. Dieu dit, je forme des desseins de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir d'espérance. Jérémie 29, verset 11. Quel chemin as-tu suivi pour rester battante dans l'épreuve? Quand on n'a pas eu de réponse de Dieu, on se sent coupable et je perds mes forces et je doute. Ce qui était très dur pour moi, je n'arrivais plus à prier. Donc c'était très difficile pour Erika. Je lisais des cantiques pour me rapprocher de Dieu, parce que c'est quand même là où c'est la meilleure. En lisant des cantiques, c'est ce qui nous rapproche le plus. Il ne faut jamais douter, même quand il ne répond pas tout de suite. Avec Dieu, aucune situation n'est désespérée. Il faut s'accrocher à ses promesses, à sa fidélité. Après bien des épreuves, Dieu n'abandonne jamais la veuve et l'orphelin, car il répond aux prières. Dieu est patient, il faut toujours garder la foi. Il répond parfois de manière surprenante. La foi ne préserve pas des difficultés, mais elle nous montre le chemin de s'en sortir. Éternel, tu mets en nous ta paix. Tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Ésaïe 26, verset 12. L'Éternel attend pour nous faire grâce. Ainsi, il se lèvera pour avoir compassion de nous. L'Éternel est un Dieu juste. Ésaïe 30, verset 18. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Éphésiens 6, verset 11. Voilà.
Merci Delita. Je vais passer la parole à Alison. Donc je te laisserai te présenter. Oui. Donc c'est une amie de longue date pour moi.
Je ne peux pas dire combien d'années tu as fait. Ça demande combien qu'elle a là. Donc bonsoir. Je suis vraiment contente d'être avec vous. Oui, je suis venue pour apporter un petit témoignage dans le thème d'une femme battante, mais aussi j'avais envie de revisiter un peu aussi la Bible, parce que pour moi, de toute façon, tout est basé sur la parole de Dieu. Et quand on a parlé de femme battante, c'est vrai qu'on a vu un peu ce que le monde pense, ce que c'est d'être battante. Et j'aurais pu dire, il y a plusieurs années, femme battante, moi, pas vraiment, non, parce que je suis venue d'une famille chrétienne, paisible, on n'a pas eu de soucis, je m'entendais avec mes sœurs, bon, il y avait des petites querelles, des astuces, mais il n'y avait même pas de chamaillerie physique, on était des filles, donc bon, petit coup de coude, mais pas plus que ça. Et j'ai dû me résoudre déjà à ce genre de choses parce que moi j'ai eu 4 garçons. Donc après, ça va franco les garçons et c'est vraiment pas mon caractère. Donc déjà passante, je ne me voyais pas très dedans. Et donc j'étais une fille ben, tranquille, consciencieuse, une fille de rêve quoi, hein, c'est pour mes parents. J'étais compétitive dans le sport, je faisais beaucoup de sport, mais je n'étais pas suffisamment combative. On a vu des exemples de ce que le monde dit, de ne pas penser à l'autre, parce qu'en fait, j'avais trop de sympathie pour mes adversaires, et j'avais pitié pour eux si elles perdaient. Donc en fait, je n'étais pas suffisamment combative, et même je faisais exprès de perdre les jeux de société contre ma sœur, parce qu'elle était mauvaise perdante, donc c'était plus facile de la laisser gagner que de gagner moi-même. Donc vous voyez un peu le cas. Et au-dessus de tout, je pense que mon père, qui est monsieur diplomate, m'a quand même inculqué un certain bienveillance pour l'autre et une certaine discrétion dans l'expression de peut-être de quelque chose qui pourrait être au fond de moi, qui voudrait exploser. Donc, pourquoi je suis là devant vous si je ne suis pas ce genre de femme? Déjà, je me rends compte que j'ai eu le privilège d'avoir une enfance comme ça. Parce que plus je vieillis, plus je rencontre des personnes qui n'ont vraiment pas eu ce privilège. Et c'était pour moi une fondation sur laquelle j'ai pu construire ma vie d'adulte. Donc déjà, pour moi, c'était quelque chose de très important. Alors, aujourd'hui, quels sont nos combats? C'est vrai qu'on a vu un peu les femmes dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament aussi. Mais je me suis posé la question, quels sont les vrais combats que nous avons aujourd'hui en tant que femmes, en tant qu'enfants de Dieu? Et déjà, je pense que l'apôtre Paul nous donne des idées. C'est là, oui. Voilà. Alors lui, quand il écrit à Timothée, un homme, mais bon, ça pourrait être une femme, il dit « combat le bon combat, de la foi ». Alors je pense que déjà de se dire que la foi est aussi un combat pour nous, de rester peut-être dans la foi. Pourquoi c'est un combat? Parce qu'on est assailli de tous les côtés par les tentations du monde. Et les versets qui précèdent celui-là, c'est des versets qui parlent de la tentation, de l'argent, les pièges du monde. Et en fait, Paul écrit, juste avant dans le verset 11, « Quant à toi, ben, femme de Dieu, hein, c'est homme de Dieu dans le texte, fuis ces choses et recherche ardemment, et après on va avoir une liste. » Alors c'est vrai que ce que j'aime avec Paul, c'est qu'il va écrire quelque chose de négatif, donc on va dire « fuir ». Alors là, on est en train de se battre, pourquoi on va fuir? Mais il remplace toujours par quelque chose de positif. Et là, il dit « recherche ardemment ». Et pour moi, je pense que de rechercher ces choses-là, c'est un combat déjà pour moi. Ce n'est pas pour vous, c'est un combat personnel. Je dois me battre pour être juste. Être juste dans mes pensées, dans mes actes, dans mes paroles. Je dois me battre aussi pour être plus pieuse, être attachée à Dieu. Je dois aussi me battre parfois pour garder la foi quand les doutes m'assaillent. Je dois aussi me battre pour démontrer l'amour envers celui qui me blesse. Je dois aussi me battre pour persévérer, même quand cela fait mal. Et quelles que soient les déceptions, on a parlé du fait que Dieu ne répond pas nécessairement tout de suite à nos prières. Et on peut être déçu, on peut lui en vouloir. Mais il nous demande, malgré cela, de persévérer. Et je dois me battre, surtout, pour répondre en douceur à celui qui m'a attaqué par ses paroles. Les répliques cassantes sont trop vite sorties. Donc pour moi, tout ça, c'est un combat personnel. C'est mon combat à moi. C'est de pouvoir rechercher ardemment ces choses-là. Mais je pense que le combat est aussi collectif. Et Paul écrit en Philippiens, « Tenez ferme dans un même esprit, combattant d'un même cœur pour, et là toujours la même cause, la foi de l'Évangile. » En tant qu'Église, en tant que groupe de femmes, en tant que frères et sœurs, nous sommes une armée. Alors vous connaissez peut-être le chant « Dieu a une armée qui se lève » et qui, pourquoi il se lève? Pour lui obéir. Ah, je viens me lever, mais obéir, d'accord? Parce qu'on va combattre ensemble. Alors, vous avez déjà étudié, entre guillemets, le passage en Éphésiens 6, où Paul rédige sur une liste de l'armure que Dieu nous propose. Et il nous exhorte justement de se servir de cette armure. Et aller à la guerre, aller au combat. Seulement, on sait que l'armure ne suffit pas en soi. Pensez à l'exemple de David, quand il va se battre contre Goliath. Saül lui propose son armure. Mais c'est tellement trop grand, c'est trop lourd, il enlève. Mais il réussit quand même son combat. Pourquoi? Parce qu'il allait chercher la force ailleurs que dans l'armure même. Donc, comme dans la super jolie chanson, alors là, c'était très très belle dans cette chanson, merci. Là, vous avez parlé de puiser la force. Et justement, c'est quelque chose qu'on se demande. Où va-t-on puiser la force que nous devrions avoir pour combattre tous les jours? Je suis parfois même effarée de voir les influences que certaines émissions de télé peuvent avoir sur nous, mais surtout sur nos enfants, sur la génération qui arrive, où les philosophies, on va dire, de l'Orient arrivent, et on a le vieux sage qui va envoyer quelqu'un, le personnage principal, va aller chercher, va partir en quête de soi, pour chercher au fond de lui-même la force dont il a besoin pour combattre l'ennemi. Et effectivement, certaines personnes pensent ce genre de choses, et ils découvrent une certaine ténacité ou force pour vivre, soit. Mais est-ce suffisant? Est-ce assez pour le combat spirituel que nous devons affronter? Je ne pense pas. Et quand on parle combat, on retourne dans quelques millénaires avant notre ère, et l'Ancien Testament qui remplit les combats. On en a vu avec Déborah. Et c'est vrai que c'est tout ensanglanté en certains endroits dans la Bible, n'est-ce pas? On a parfois du mal à le dire parce qu'on a l'impression qu'il y a des morts partout. Mais les héros de cette époque devaient avoir un certain courage pour affronter l'ennemi. Mais souvent, en fait, ce que j'aime dans la Bible, c'est qu'il montre que ces gens étaient normaux comme nous. Ils avaient peur. C'était des réticents. Ils n'avaient pas trop envie d'aller se battre parfois. Et je compatis avec les personnes comme Moïse et Gédéon, qui, appelés par Dieu, argumentent en disant « Mais non, pas moi, je suis trop petit, non, je suis le dernier du dernier tribu, non, mais je ne sais pas parler, moi, je suis... » Ils ont mis en avant tout de suite leur faiblesse comme argument pour ne pas combattre. Mais moi aussi, parfois, je peux dire « J'ai peur ». J'ai pas de force. Je sais pas parler. J'ai pas les mots qu'il faut pour convaincre un tel ou pour faire ceci ou pour faire cela. Mais Dieu ne le laisse jamais. Il a la réponse. Il avait la réponse pour Moïse et Gédéon. Il a la réponse pour moi, pour vous. Je suis avec toi. Je serai avec toi. Et je voudrais vite prendre encore trois exemples dans l'Ancien Testament, où on a vraiment cette assurance que c'est Dieu qui est avec nous. Vous rappelez quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, la joie, la victoire, ça y est, on est libre, qui a vite tourné au vinaigre quand ils ont vu l'armée égyptienne qui les poursuivent. Ils ont très peur. Mais Moïse a su dire, par la grâce de Dieu, c'est l'Éternel qui combattra pour vous. N'ayez pas peur, c'est lui qui combat, c'est pas vous. Et puis, on a un autre exemple. Josaphat, en 2 Chroniques, un roi, qui apprend la nouvelle qu'il y a une grande armée qui vient faire la guerre contre les Israélites. Qu'est-ce qu'il fait? Il prie. Il dit, nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi, mon Dieu. Nos yeux sont sur toi. Et donc, puisqu'il s'est adressée à Dieu. Dieu lui a répondu par le prophète qui s'appelait Jacques Azaël, qui vient dire, n'ayez pas peur, ne vous laissez pas effrayer, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Et puis une troisième, si je peux me permettre, on a un autre roi, Ézéchias, un roi de Juda, qui s'adresse à son armée, qui sont tous là en train de trembler, parce que justement, ils ont les Assyriens en face. Fortifiez-vous et soyez plein de courage. N'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer face au roi d'Assyrie et à toute la foule qui est avec lui. Oui, mais regardez, à toute la foule qui est avec lui, on va avoir peur. C'est normal, non? Il a dit maintenant. Car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Non, mais attends, tu as vu, nous, on est juste une petite arme. Mais regardez la grande armée. Non, on a plus avec nous. Pourquoi? Avec lui, il y a un bras de chair. Mais avec nous, il y a l'Éternel, notre Dieu qui nous aidera et qui combattra pour vous. Et là, c'est juste trois exemples parmi encore. Alors, comme j'ai dit, il aurait pu en trouver plein d'autres histoires de femmes battantes. Et moi aussi, de rois qui ont su, ou des personnes qui ont su faire confiance à Dieu. Alors, parfois, finalement, ils n'avaient rien à faire. Dieu est intervenu d'une manière miraculeuse et puis il se réveille le lendemain matin, il n'y a plus d'armée en face. C'est incroyable. Mais parfois, il fallait quand même aller se combattre. Mais Dieu était avec ça, avec eux, et combattait à leur côté pour eux. Aujourd'hui, la promesse reste pareille. On n'a peut-être pas les mêmes batailles, mais on a quand même des combats. Et la promesse reste la même. Il combattra avec et pour nous. Alors c'est vrai qu'en tant que femme un peu peureuse et faible, je serais plus à l'aise dans la défense. Je suis la maman qui va défendre ses enfants. Mais je ne vais pas aller au-delà. Et c'est vrai que dans la liste dans l'armure, c'est plus les armes, on va dire, les armes défensives. Le casque, le bouclier, le cuirasse, tout ça, c'est défensif. Et en plus, Paul nous exhorte à tenir ferme. Donc, tenir ferme, c'est de rester là, sur place, de résister. Mais je voudrais quand même souligner quelque chose qui est venu déjà dans la chanson que j'ai chantée tout à l'heure. C'est vrai que quand je lis ce passage dans Éphésiens 6, j'ai plutôt tendance à aller tout de suite sur l'armure et dire oui, ça c'est ça, ça c'est ça, ça, ça correspond à ça. Et je saute le verset 10 où c'est marqué que je trouve que nous allons pouvoir puiser notre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. C'est pas en nous-mêmes que nous allons trouver cette force, c'est en lui. Et j'ai beaucoup aimé votre chanson parce que ça c'est bien ressorti dedans, vraiment puiser cette idée d'aller en profondeur pour aller chercher cette puissance qui est le sien, la sienne. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que quand même dans la liste, il y a quand même quelque chose pour attaquer. Et parfois, oui, la meilleure défense, c'est l'attaque. Alors, quelle est cette arme pour attaquer? C'est l'épée. L'épée de l'esprit. L'épée, c'est la parole de Dieu. Or, pour manier une arme, une épée, il faut la connaître. Moi, je n'ai jamais fait d'escrime ou quoi que ce soit, donc vous me donnez une épée, je ne saurais pas quoi faire avec. Mais pour les soldats de l'époque, ils étaient entraînés. Ils savaient manier leur arme. Alors, notre arme, c'est la parole de Dieu. Alors, je vais vous poser une question, ou même deux, ou même trois. Combien de fois par semaine lisez-vous la Bible? Alors, je ne vais pas vous demander de me dire. Peut-être des chrétiennes modèles, et c'est tous les jours, une heure de matin avant d'aller au travail. Mais combien de temps passez-vous dans l'étude de la Bible? Quelle place a la parole dans votre quotidien?
Savez-vous manier l'épée? Cette épée? Alors, pour ouvrir une petite parenthèse, je vais prendre une autre image de la parole, qui est la nourriture. Alors, la plupart d'entre nous avons la chance de pouvoir manger 3 fois par jour. Et si vous êtes comme moi, vous aimez aussi prendre goûter et vous avez l'excuse que les enfants qui mangent le goûter, donc il faut s'asseoir avec l'enfant et prendre du temps de qualité avec lui et bon, entre-temps, on mange le gâteau aussi. Alors, de reste, autour de nous, nous sommes aussi conseillés par l'État ou par je ne sais pas qui, ne pas manger ni trop gras, ni trop salé, ni trop sucré, d'accord? Manger 5-6 légumes par jour. Et c'est vrai que les Français sont fiers de leur cuisine, n'est-ce pas? Vous êtes fiers de votre cuisine? On a bien mangé tout à l'heure. Et le temps passé à table, c'est quand même notoire en France. D'être capable de passer 4 ou 5 heures à table. Alors, je vous donne juste une petite anecdote. On a reçu une jeune fille albanaise chez nous, une fois, et venait de faire un camp à Saint-Lunaire, donc un camp chrétien. Elle était dans la cuisine. Et elle était crevée, parce que son français n'était pas extraordinaire, donc écouter le français tout le temps, c'est difficile. Elle arrive chez nous, dimanche, on va au culte, et puis on avait du monde, ça serait sympa qu'elle rencontre du monde de l'église, tout ça. Donc on invite du monde chez nous, et on s'assoit à table, c'était 2 heures avant de s'asseoir, parce qu'après le culte, tout ça, ça prend du temps. Et on voyait au fur et à mesure que le repas avançait, que les yeux commençaient à cligner. Et puis, vers 5h30, quand on s'est donné les tables, la pauvre a dit, je vais aller me coucher. C'est vrai qu'on passe beaucoup de temps à table. Alors, combien de temps passons-nous à table avec le Seigneur? Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entre, entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus nous propose sa personne, sa parole et il veut passer du temps à table avec nous pour apprécier ce repas extraordinaire qu'il nous donne. Pour être une femme battante, il faut s'alimenter de la parole et apprendre à s'en servir. Cette parole est une épée à double tranchant. C'est la parole de Dieu qui est vivante et efficace. Mais n'oublions pas que même si nous sommes entraînés, même si nous avons cette épée à la main, ce n'est surtout pas notre force qui va nous aider à s'en servir ou qui nous conduira loin dans notre combat, quel qu'il soit. Hein, rappelons-nous Moïse, Ézéchiel, Gédéon, David ou bien d'autres. Leur force était dans le Seigneur. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul, on va dire le plus combattant de tous dans le Nouveau Testament, pour avoir Jésus, hein, bien sûr, il a su dire, face à une énorme faiblesse qu'il avait, on ne sait pas exactement ce que c'est, mais il a dit 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est le Seigneur qui lui dit ça. Donc Paul répond, je me glorifie donc bien plus volontiers dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose en moi. C'est pourquoi je me plais dans mes faiblesses, dans mes outrages, dans mes calamités, dans mes persécutions, dans mes détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Donc reconnaître ses faiblesses est une force. Dépendre de la puissance de Dieu est la victoire. J'ai lu ce psaume il y a quelques jours et j'ai beaucoup aimé ces 2 versets. Aux uns les chars de guerre, aux autres les chevaux. Nous, notre confiance, nous la mettons en toi, Éternel, notre Dieu. Eux, ils fléchissent et ils tombent. Nous, nous restons debout et tenons fermement. Alors, vous allez me dire, mais c'est quand votre témoignage? C'est maintenant.
J'ai dû apprendre cette leçon de manière brutale. En 2007, j'ai été diagnostiquée avec un tumeur au duodénum. Alors, quand on reçoit une nouvelle comme ça, tout bouscule dans sa vie. Du jour au lendemain, tu sais que tu as un bon combat à faire. Sans parler de tous les tests, de tous les rendez-vous, et tous les tests, les rendez-vous et les papiers qui vous assaillent. Ça, c'est sans penser déjà à l'intervention. Hein, nous savons que France est très fort pour l'administration. Alors, et là, c'est sans parler du questionnement, de pourquoi qui surgit. Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi ça m'arrive? Alors, à l'aube d'un grand combat, le chirurgien m'a reçu. Il ne cacha pas la complexité de l'intervention que j'allais subir et me prévient de quelques complications qu'il pourrait avoir, éventuellement. Mais c'est vrai qu'il était vraiment temps que je sois opérée parce que je ne mangeais plus. Alors, le jour J, les 6 heures d'intervention débutent. Mon mari tire dans les couloirs de l'hôpital, faisant les fanfares en attendant les nouvelles. À la fin de la journée, on rencontre le chirurgien qui dit « Tout s'est bien passé, vous pouvez rentrer chez vous. » Donc, il rentre. La maison est à 75 km, hein, c'est pas tout près. Mais au milieu de la nuit, les alarmes commencent à sonner. Il y a d'un coup beaucoup de personnes dans ma chambre et je commence à me poser la question « Pourquoi vous êtes tous là ?»« Je suis désolée, vous allez redescendre au bloc. » Pardon ?« Non, mais parce que vous avez une hémorragie interne et faut tout de suite quand vous redescendez. »« Vous voulez appeler votre mari ?»« Oui, je veux bien. » »« Alors le pauvre. » J'ai juste le temps de l'inquiéter, pas plus, d'appeler quelqu'un à 3h du matin pour dire « Je redescends au bloc, je t'aime, au revoir. » Donc il a pas fini, on m'a déblanche pour autant, mais tout s'est bien passé. Transfusion, ils ont réparé la fuite, ils ont recousu, tout va bien. Ils m'ont dit dans 10 jours vous serez sur pied et rentré chez vous. Quand on dit en anglais famous last words, ils ont parlé beaucoup trop vite. Alors la suite ressemble, pour ceux qui sont fans, à un épisode de Dr. House. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un médecin pas très sympa qui accueille toujours les cas difficiles. Et je suis devenue un mystère et un challenge et un défi pour les médecins à Rennes. Parce que, en fait, c'était impossible de me réalimenter. L'alimentation passait par un tube et ressorti aussitôt par un autre. Donc, en fait, je dépérissais petit à petit et personne ne savait que faire. Alors, c'est vrai qu'il y avait aussi le chirurgien qui passait tout le matin avec le fil d'interne derrière, comme ils font dans les hôpitaux. Il s'assoyait sur le pied de mon lit, il prenait ma main et il me disait « Alors, ma petite anglaise, comment ça va ?» Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ça va. Je mange pas. Je suis perdue, mais ça va. Et puis, il pose la question aux internes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Et ils se regardent et personne ne sait ce qu'ils vont faire. Alors, j'étais ravie de la tête aux pieds. J'ai eu tous les tubes impossibles dans la bouche et ailleurs. Je ne vais pas expliquer. Et j'étais finalement embarquée dans une épreuve où faiblesse est-il le mot-clé. Vraiment, physiquement, il n'y avait plus rien à faire. En tout cas, moi, je ne pouvais rien faire. Et c'est vrai que tout était réuni pour être découragé. Et je ne vous cache pas qu'il y a eu beaucoup de larmes. Il y a eu beaucoup de pleurs et de cris vers Dieu. Peut-être les cris plus silencieux, parce qu'au milieu de la nuit, on ne va pas crier, parce que ça va faire venir les infirmières. Mais c'est vrai qu'entre les médecins qui étaient dépourvus de réponses et ils étaient perplexes,
Le mari qui, le pauvre, ne pouvait rien faire et ne savait plus quoi faire. La maman qui était venue juste pour 10 jours pour garder les enfants et qui restait 2 mois. Et les enfants qui n'avaient franchement pas envie de venir voir l'hôpital. Et on ne peut pas les en vouloir parce que c'est sûr qu'une chambre d'hôpital, c'est pas très attrayant. Il n'y a que la télé. Et là encore, si on regarde trop longtemps, on a une torticolis parce que c'est toujours accroché au mur en haut. Et je n'étais pas très jolie à voir, il faut aussi le dire. Et en fait, je me suis fait peur. Une fois, on m'a assistée pour aller jusqu'à la salle de bain pour faire ma toilette. Et je me suis regardée. Et pour une raison, je ne sais pas pourquoi, je me suis retournée à un moment donné. Et j'ai failli crier. Je me suis dit, où sont passées mes fesses? Je n'avais plus de fesses. C'était quelque chose, c'était vraiment un choc. Et à ce moment-là, j'ai dit, mais Seigneur, je ne sais pas où je vais. Et c'est vrai que seule la nuit, le combat jouait au fond. Je me sentais seule, mais je n'étais pas seule. Dieu était avec moi. Rappelez-vous, il a dit, je suis avec toi. J'étais souvent trop faible pour prendre ma Bible moi-même, mais c'était les versets que les amis, la famille, les frères et sœurs m'ont envoyé, qui m'ont soutenu. La parole de Dieu vivante et efficace attaquait le découragement et désespoir. La parole attaquait ce sentiment d'abandon. Je ne pouvais manger physiquement, mais spirituellement, on était en train de me vitaminer à bloc. Les poches d'alimentation chimique remplissaient mes veines de minimum pour me garder en vie, mais la parole de Dieu remplissait mon cœur et mon esprit d'espérance et confiance. Et un jour, quand j'ai pu prendre ma Bible, je suis tombée sur un passage qu'on connaît très très bien, mais qui a pris un autre sens pour moi. En Matthieu 6, c'est écrit, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Et moi qui étais en train de me dire tous les jours, quand est-ce que je vais pouvoir remanger? Est-ce que je vais remanger un jour? Et Dieu m'a dit, ne t'inquiète pas, la vie c'est plus que ça, il y a plus dans la vie. Et c'était quelque chose qui m'a donné un nouvel élan pour continuer le combat. Finalement, ils m'ont réopéré et transféré. Et le Seigneur a répondu aux prières qui ont été données, mais de partout. Alors, c'est quelque chose qui vraiment m'a beaucoup ému. C'est le soutien de mes frères et sœurs, mais partout dans le monde. Les gens qui ne me connaissaient pas priaient pour moi. Et ça, c'était encore ce combat, ensemble, dans la prière dont vous avez parlé la dernière fois. Et 3 mois après la première intervention, je suis rentrée à la maison. La pente était très longue, mais cette épreuve était un réveil pour moi. Comme pour beaucoup, quand notre quotidien est bousculé, voire carrément renversé, nous regardons de nouveau nos priorités. Et Dieu m'avait montré que je ne connaissais que trop superficiellement sa parole. Je me nourrissais correctement, oui, assez équilibré, peut-être pas 5 fruits, mais bon, 3 ou 4. Je faisais l'effort de temps en temps de me donner vraiment de la peine pour faire un bon repas avec les amis. J'étais loin d'être candidat de top chef ou master chef. Je me contentais du bon au lieu de chercher l'excellent. Donc pour amener encore plus loin ce parallèle, je connaissais mal certains ingrédients, des produits de qualité, des épices rares ou méconnues qui pourraient relever le plat et donner un goût encore plus savoureux. Le marché du fermier bio était juste à côté. Mais je me contentais de la grande distribution et la facilité, et les plats tout faits. Ayant repris les forces, je me suis inscrite à des cours bibliques en ligne, avec l'Institut biblique de Genève, pour acquérir une discipline dans l'étude de la Bible. C'est du boulot. Et ce n'est pas du fast-food. Il y a de la préparation. Il faut préparer les légumes frais. Il y a des techniques à apprendre quand on a cuisiné. Mais je peux dire que je suis devenue gourmande. La gastronomie biblique est vraiment à savourer. Je vous le conseille. Alors cette parole qui me nourrit est devenue mon épée. Toujours à mon côté. Prête à être dégainée à tout moment. Jésus s'en est servi contre les tentations de Satan. Je m'en sers tous les jours. Je m'en sers contre le mensonge, le découragement, la colère, l'impatience, l'orgueil, le doute, les ruses du diable, les tentations et encore autre chose. Mon histoire de cancer m'a conduit dans les sentiers bien sombres. Et il y en a eu beaucoup d'autres après. Parce que si vous connaissez un peu mon histoire, Dr. Haas m'aurait aimée comme patiente. J'ai eu d'autres interventions, j'ai eu d'autres déceptions, d'autres complications. Et il y en aura encore. Mais je peux les affronter l'épée à la main, sachant que Dieu combat à mes côtés, par sa parole et avec sa force. Et c'est lui qui tient la victoire. Et justement, on va terminer avec une chanson. Alors, je ne vais pas dire que je l'ai écrite parce que les paroles viennent de la Bible. Donc, ce n'est pas moi qui écris la Bible. Par contre, c'est moi qui ai mis la musique. Alors, je vais essayer de vous la jouer sur le piano. Je ne promets rien d'extraordinaire.
Mais c'est pris, en fait, une partie de ce que le Seigneur m'a donné à cœur de faire depuis cette épreuve. C'est une chose d'apprendre la parole pour soi, mais j'ai vraiment à cœur que les enfants aussi apprennent la parole. Et donc, j'ai un projet de mettre les versets sur musique, de les enregistrer pour que les enfants puissent s'en servir pour apprendre les versets. Et donc, cette chanson-là, justement, c'est, d'ailleurs, c'est sur l'écran, je vais vous montrer, ça vient de Zacharie, chapitre 4 ici. Et puis aussi les versets que Paul il a écrit en 2 Corinthiens. Alors, vous allez voir, la mélodie est plus simple. Donc, une fois que je l'aurai chanté, vous allez pouvoir chanter avec moi.
Ni pas la force, mais la mort d'esprit.
Merci beaucoup, Alison. Et pour terminer, j'ai un verset qui m'est revenu assez souvent en préparant cette réunion. Une arme aussi qu'on oublie parfois, c'est la joie. Et ça m'a fait penser au verset dans Néhémie. La joie de l'Éternel sera votre force. Alors, je vous ai préparé une petite carte en souvenir pour vous puissiez mettre dans votre Bible en souvenir de cette réunion. Et donc, c'est une carte. David est allé à Madagascar et il a rencontré un couple de chrétiens qui recueille des jumeaux. Parce que les jumeaux là-bas sont noyés, abandonnés, parce que c'est maléfique, ça donne du mal à les jumeaux. Et ce couple pastoral, dans trois pièces, ils avaient 15 paires de jumeaux. Et c'est vraiment. La dame s'appelle Pauline, le monsieur s'appelle Rosa, et c'est vraiment des gens qu'on a vraiment à cœur. Donc la photo que vous allez avoir, c'est écrit chez Pauline et Rosa, et avec deux des enfants qu'ils ont. Donc voilà, je voudrais juste vous laisser ça en souvenir de cette soirée, donc je vais vous donner.